Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, un magazine placé sous le signe de la lecture, mais pas n'importe laquelle, celle qui mêle le présent et le futur, je rajouterai même le passé et le futur, celui d'un monde où se côtoient des humains, des atlantes, des androïdes et des zombies, un monde où l'amour côtoie la haine et la guerre, un combat pour la justice, celle des hommes, mais pas seulement, un monde qu'Orwell a si bien décrit dans son roman prémonitoire 1984, ce monde, c'est celui de mon invité d'un soir, Nicolas Dagoun. Depuis très longtemps, il écrit des romans. Son plaisir pour l'écriture était avant tout solitaire. Il n'avait jamais eu l'idée de partager sa passion à part sur Amazon. Et puis, le secret bien gardé jusqu'à présent a été révélé. Le Père Noël a déposé un bien joli cadeau dans notre cheminée ce jour-là, le quatrième univers. Où nous emmènera-t-il? Que s'est-il passé ce fameux jeudi à 10h10 du côté de Chalon-sur-Saône? Autant de questions que nous nous posons et qu'il se fera une joie de répondre, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B Clément Nicolas Robinet, alias Nicolas Dagoun. Clément Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Clément Robinet est ta véritable identité. Tes lectrices et tes lecteurs te connaissent sous le pseudonyme de Nicolas Dagoun. Alors, quand et pourquoi as-tu choisi ce nom de plume? Je dirais plutôt ce nom de clavier, à moins que tu ne veuilles que cela ne reste secret.
Non, bah, pas de souci. En fait, j'ai choisi...
T'es pas obligé, hein?
Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne dirai que ce que j'ai envie de dire. Pas de souci. Non, j'ai choisi ce nom assez rapidement, en fait. Donc, Nicolas, qui est mon deuxième prénom, hein, pour le coup, il n'y a pas de mystère particulièrement. Dagoun, par contre, je tairai son origine. Je l'ai choisi assez rapidement, en fait, parce que voilà, je voulais écrire. Je suis assez pudique, on va dire, sur moi-même. Donc voilà, je préférais avoir un nom de plume, on va dire, pour me cacher derrière, si on peut dire.
Bien.
Donc depuis l'origine.
Voilà. Alors, tu habites dans le Bugey depuis quelques années, mais tu n'es pas un Indinois pur jus, puisque dans ton sang coulent des origines saône-et-loiriennes.
Effectivement.
Donc, c'est donc tout sauf un hasard si ton roman Le Quatrième Univers se passe à Chalon-sur-Saône. De quel coin du 7-1 es-tu originaire?
Alors, je suis originaire de Chalon-sur-Saône, effectivement. Donc,
Chalon-sur-Saône même?
Les environs.
D'accord.
Un village à proximité. Donc, j'ai grandi à Chalon-sur-Saône, hein, c'est là où j'ai fait ma plus grosse scolarité.
D'accord. Bien.
Voilà. Ensuite, j'ai un peu bougé. J'ai été à plusieurs endroits dans la Drôme et finalement dans l'Ain depuis quelques années.
Voilà. La Drôme peut expliquer cela si vous lisez le livre. Alors, quel rapport entretenais-tu, toi, avec les mots lorsque tu étais plus petit, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée?
Alors, j'ai toujours beaucoup lu. Hein, comme j'imagine beaucoup d'écrivains, je suis d'abord un grand lecteur. Mmh. Donc, j'ai toujours beaucoup lu depuis tout petit. Et même avant de savoir lire, j'aimais beaucoup qu'on me raconte des histoires. Donc, ça vient de vraiment très loin. D'aussi loin que je me souvienne.
Alors, quels étaient tes auteurs de chevet et les genres que tu appréciais et que tu apprécies peut-être encore aujourd'hui?
Alors, quand j'étais jeune, j'ai dévoré, comme beaucoup, Le Seigneur des Anneaux. Donc Tolkien, je l'ai lu en boucle sans doute plus d'une dizaine de fois.
Ah ouais.
Dans ma jeunesse, j'avais moins de livres aussi. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un grand nombre de livres. J'en avais moins à l'époque, donc quand il y en a que j'aimais, je les lisais beaucoup. Sinon, depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années maintenant, je lis assez peu de romans, ce qui est un peu paradoxal peut-être, mais je lis surtout des essais, des livres d'histoire, ce genre de choses, beaucoup. Je suis passionné d'histoire. Et voilà, donc je lis toujours des romans, hein. J'aime beaucoup Stephen King par exemple, et beaucoup d'autres, des romans de fantasy, de science-fiction, mais c'est vrai que c'est pas mes lectures principales.
D'accord. T'as un parcours scolaire littéraire?
Pas du tout. Pas du tout. Non, après le bac, je me suis dirigé vers le secteur du transport. Donc, j'ai un DUT en logistique et transport et une licence de transport de voyageurs. Donc, rien à voir.
Voilà. C'est pas l'endroit où on lit le plus?
A priori, non.
A priori, non.
Encore que dans les transports, c'est un bon endroit pour lire.
Exactement. Alors, quand est arrivé cet amour pour les mots au point d'écrire?
Alors, c'est pareil, je dirais que j'ai toujours plus ou moins écrit, sous une forme ou une autre. Alors, évidemment, quand j'étais jeune, j'écrivais pas encore des romans, hein. J'écrivais des morceaux d'histoire, des choses qui me plaisaient. Voilà, j'essayais de reproduire des choses, mais ça formait pas des livres. Mon premier livre, d'ailleurs, Le Quatrième Univers, le premier vrai livre que j'ai mené, on va dire, du début à la fin, ce qui est pas simple, je devais avoir entre 18 et 20 ans, grosso modo, donc c'est la période d'écriture. Voilà, mais sinon, j'ai toujours écrit, oui, bien avant ça.
D'accord. Les rédactions, t'aimais ça?
Oui, En général, alors le sujet, tout dépendait du sujet. Mmh. Voilà, j'étais même des fois un petit peu rebelle, entre guillemets, même vis-à-vis de la lecture. Des fois, quand on devait lire des livres au collège, je les lisais des fois entre les lignes parce que ces livres-là ne me plaisaient pas trop. Donc, malgré qu'on soit un grand lecteur, on peut être aussi sélectif dans ses lectures.
Alors, tu avais quel âge et puis quelles idées en tête? Déjà, c'est d'écrire des romans quand tu as commencé à écrire?
J'écrivais, alors encore une fois, des romans c'est un grand mot parce que c'était surtout des passages, mais j'écrivais beaucoup plutôt centré autour de l'univers de la fantasy, on va dire, en tant qu'adolescent. Voilà, c'était vraiment encore une fois l'influence du Seigneur des Anneaux notamment, mais voilà, c'était vraiment centré autour de la fantasy. Oui, c'était des petites histoires, on va dire, des débuts de romans que je ne terminais jamais.
Parce qu'il te manquait la fin,
parce que c'est dur à dire, parce qu'en fait c'est assez compliqué d'écrire un livre, c'est bête dit comme ça, mais c'est long, il faut passer beaucoup de temps et il faut tenir le récit de bout en bout. Et en fait, quand je commençais, j'avais d'autres idées qui fusaient et du coup je recommençais autre chose et autre chose et autre chose.
D'accord.
Voilà, la principale difficulté, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que c'est assez souvent, c'est pas forcément d'avoir des idées, parce que ça, des idées, j'ai bien plus d'idées que je n'ai de temps pour les écrire, mais c'est de vraiment se tenir à écrire un livre jusqu'au bout et de se dire, les autres histoires, elles attendront un petit peu, je les écrirai plus tard.
De faire un plan, c'est compliqué ?
Alors, le plan d'un roman en tant que tel, pas forcément. J'ai toujours, quand je pars dans un roman, j'ai toujours une idée au moins de comment il va finir et du cheminement général. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours des variations. J'arrive jamais à aller exactement là où je veux aller parce qu'en fait, une fois qu'on commence à décrire des personnages, des situations et une psychologie, des personnages, voilà, des choses qu'on avait imaginées comme ça un petit peu de manière un peu lâche au départ, finalement, la psychologie des personnages fait qu'on ne peut plus aller tout à fait dans cette direction-là. Donc, je dirais presque qu'on peut être entraîné un peu, entre guillemets, malgré nous, vers ailleurs. Mais voilà, non, le plan général du livre, en général, je l'ai en tête du début à la fin, ouais. Avec des variations.
Alors, qu'est-ce qui a nourri et nourrit encore tes écrits, tant en termes de romans, celui des autres, de cinéma, de musique, d'histoire, avec un grand H, et puis une certaine idée du monde d'aujourd'hui et de demain, y compris au niveau de la politique et de l'économique?
Un peu tout ça. Ouais. C'est-à-dire que ça se nourrit par mes lectures, effectivement, ouais. Y compris même ce qui n'est pas des romans, hein, puisque, encore une fois, tout ce qui concerne le monde en général, donc comme tu l'as très bien dit... la politique, l'économie, le monde dans lequel on vit. Donc tout ça, ça peut nourrir ces histoires. Et bien sûr, tout ce que je peux être amené à lire moi-même, à voir, même à entendre, effectivement, parce que les musiques m'accompagnent souvent dans l'écriture.
D'accord.
Donc voilà, les inspirations sont vraiment diverses. Alors des fois, j'ai clairement des inspirations, c'est-à-dire que je sais d'où vient l'inspiration, on va dire. Une chose qui me parle, je me dis, tiens, je prends une idée quelque part et en me disant j'en ferais bien quelque chose de différent en allant ailleurs, voire en le transposant complètement différemment. Et des fois, des influences sans doute que je ne perçois pas moi-même, mais forcément, on est influencé par tout ce qui nous entoure en permanence.
Ouais. Le cinéma ?
Le cinéma, oui, bien sûr.
Ouais. Donc forcément, le cinéma un peu fantastique, science-fiction ou...
Oui, essentiellement. Après, oui, ça peut être de tout genre. Hein. Ça peut venir de partout.
Ouais. Comme le générique Retour vers le futur, non ?
Par exemple.
Par exemple. Donc tu écris ton premier roman donc à l'âge de 18-20 ans, hein, donc Le Quatrième Univers. Donc c'est l'histoire de Maxime, un étudiant qui fait sa rentrée universitaire à l'IUT de Chalon-sur-Saône. D'entrée, ça sent le roman autobiographique, parce qu'en plus, c'est un gars qui vient de la Drôme. Tu t'es parfois identifié à ce personnage qui a fréquenté dans ton département d'origine ?
Alors,
même
oui.
S'il a fait l'inverse.
Oui, il a fait l'inverse. En fait, oui, comment dire, j'ai même essayé de me distancier, parce qu'il y a... alors, je pense que c'est un effet premier roman, hein, je pense que c'est assez habituel, a priori, mais il y a un effet un petit peu une tendance à se projeter dans son roman, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai essayé de lutter contre ça, en quelque sorte, donc de rendre Maxime différent de moi, pour ne pas... Parce que je ne voulais pas écrire, me transposer moi-même dans un roman, ce qui serait à la fois égocentrique et un peu particulier. Et du coup, voilà, j'ai essayé de prendre cette distance. Alors, inévitablement, oui, il y a toujours, on a tendance à se projeter dans ces personnages et a fortiori quand c'est un narrateur unique, comme c'est le cas ici. Voilà, il y a eu forcément une forme de projection, mais j'ai essayé de m'en tenir à distance autant que possible.
Alors, le quatrième univers, donc, c'est aussi une histoire de rencontre, avec un S, celle avec des étudiantes, des étudiants d'une classe de première année d'IUT, hein, je ne me trompe pas.
C'est ça.
Hein, donc là, hein, c'est pas un hasard. Il y a d'ailleurs une foule de personnages dans ce roman. C'est facile de s'y retrouver, même pour toi, parce qu'il y a du monde. Hein, il y a du monde.
Alors oui, pour moi en tout cas, pour le lecteur je ne sais pas,
ouais.
pour moi oui, parce que les personnages je les ai en tête, c'est une histoire qui, voilà, qui est dans ma tête, dans une, enfin sous, qui est bien architecturée, je ne sais pas si le mot se dit,
ouais,
mais
ouais, si, c'est bien.
Dans ma tête, voilà, ah, donc il ouais. n'y a pas de souci sur ça. Les personnages, alors pour le coup, sont totalement fictifs, hein. Là j'évite toujours j'essaie de garder une grande distance avec les personnages, parce que c'est quelque chose de très intime, l'écriture,
ouais.
Comme il y a des relations aussi entre les personnages de tous ordres, hein, bien sûr, ouais. Mais du coup, les personnages, j'essaie de toujours
même les prénoms.
À distance.
Même les prénoms,
ouais.
Ouais,
bien
ouais.
sûr, c'est souvent des prénoms qui me parlent pour une raison ou une autre, mais c'est,
ouais.
j'essaie justement de ne pas utiliser des prénoms de personnes que je connais, pour ouais. éviter cette identification.
Des noms de personnes que tu vas connaître. Mais ça, c'est... Je pensais à Alice, par exemple.
Oui, mais ça, je ne pouvais pas le savoir à l'époque.
Ah, ça, c'est Retour vers le futur, ça.
Exactement. Mais voilà, non. Du coup, j'essaye de me tenir voilà, à distance de ça. Mais après, non, l'histoire, dans ma tête, c'est clair.
Ouais. Donc, tu savais où tu voulais aller et puis tu connaissais déjà la fin.
Oui.
Ouais. Dès le début, tu connais la fin.
Oui, dès le début, je connais la fin. Je me suis auto-spoilé.
Parce que généralement, ce n'est pas le cas ou
Si, en général, c'est... Je dirais même qu'en règle générale, quand j'écris, j'ai le début, la fin. Et c'est des fois le milieu qui peut être amené à me manquer, à évoluer au gré des péripéties. Mais en règle générale, je connais la fin, plus ou moins.
Alors comment avance-t-on dans l'histoire? C'est comme dans la vie, il y a des imprévus, des personnages qui ont changé l'histoire
Alors oui, il y a des personnages, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, des fois la psychologie des personnages fait qu'on ne peut plus aller tout à fait là où on voulait aller. Alors je suis resté dans les grandes lignes, hein, mais des choses ont bougé à la marge par rapport à ce que je voulais. D'autant plus que ce roman, je l'ai écrit sur quand même un certain nombre d'années. Je disais tout à l'heure de 18 à 20 ans, c'est grosso modo de mémoire, hein, ça doit être voilà, sur 2 ou 3 ans. Et en 2 ou 3 ans, il se passe des choses. Et voilà, du coup, j'ai été même amené à des fois revenir en arrière parce que je prenais une direction qui ne me plaisait pas, donc ouais. Revenir en arrière, modifier des choses. Ce qui est d'ailleurs une chose que je n'ai plus refait depuis, parce que j'essaye maintenant d'écrire autant que possible d'une traite, on va dire, je trouve que ça permet de... C'est plus facile, c'est plus gratifiant aussi, parce que c'est jamais facile de revenir en arrière et de modifier des choses. Donc voilà, donc là, oui, j'ai été amené à modifier des choses, mais encore une fois, pas fondamentalement le cœur de l'histoire.
Mmh. Alors, on va pas... dévoiler l'intrigue du quatrième univers. On sait juste qu'après une soirée pas forcément très arrosée, d'ailleurs, comme on a pu peut-être connaître, enfin, on a peut-être connu étant étudiant, le personnage principal du roman, Maxime, se réveille le matin avec un solide mal de crâne et aucun souvenir de la veille. Il va enquêter sur cette amnésie subite et va rapidement découvrir qu'il est au centre d'une machination qui va bien au-delà d'une simple enquête criminelle, fût-elle même antiterroriste, comme tu l'écris si bien dans le quatrième de couverture. Comme on dit chez les pros, ça aurait pu être un polar ou un thriller, ou en tout cas ça en prenait bien le chemin en tout cas.
Oui, alors en fait l'idée c'est vraiment, enfin le point de départ en tout cas tourne autour de cette amnésie, puisque, enfin il y a un détail que tu as oublié de citer, c'est, il me semble, c'est moins que j'ai été distrait, c'est que le soir donc de l'amnésie de Maxime, il y a également un attentat qui se produit.
Oui, mais je ne raconte pas tout. Hein. Ah, oui,
non,
oui.
Non, mais bien sûr, mais voilà. Oui, oui. Non, parce que comme tu parlais d'enquête criminelle...
Tout à fait. Tu parlais d'antiterrorisme.
Voilà, exactement. Oui. Donc en fait, le soir, donc, il perd la mémoire, effectivement, Maxime, le narrateur. Et,
oui.
Et donc il se réveille le matin sans aucun souvenir et il découvre qu'il y a eu un attentat ce soir même. Et voilà, ce qui n'a a priori aucun lien avec lui, sauf qu'un peu plus tard, et je n'irai pas plus loin dans le résumé,
un
peu plus tard, des enquêteurs viennent l'interroger, lui, sur cette soirée.
Voilà.
Voilà, en lui posant des questions, sauf que des réponses, il n'en a pas, puisqu'il est amnésique, ce qui est considéré a priori comme suspect.
Voilà.
Et voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus.
Non. Donc je disais, est-ce que ça aurait pu être un polar ou un thriller?
Alors non, puisque...
Ça en prenait bien le chemin, moi je trouve.
Oui, effectivement, dans l'histoire de base telle que présentée comme ça pourrait le laisser supposer.
Voilà.
Non, parce que c'est pas forcément un genre... Là, c'est une histoire de goût personnel, hein, je dirais. C'est pas forcément un genre... le genre que j'apprécie le plus, c'est pas forcément ce que je lis le plus. Et je ne suis pas sûr d'être très doué dans l'écriture. Enfin, je pense qu'il faut vraiment écrire ce qu'on aime, mais je ne suis pas sûr d'être particulièrement doué dans ce style d'écriture. Donc non, ce n'est pas forcément la direction que je voulais prendre.
D'accord.
L'idée, c'était plus voilà, de rester Bah, dans le côté science-fiction, parce que bon, l'explication viendra aussi de là, dans l'histoire, mais aussi dans ce côté qu'on appelle jeune adulte, entre guillemets, chez Young Adults, les anglo-saxons. Voilà, parce que je trouve que c'est une période intéressante, c'est une période un peu charnière dans la construction d'un individu, une période où on rencontre beaucoup de personnes. Et voilà, et ce type d'histoire, avec un peu à tiroir, avec des aventures différentes, je trouve ça, voilà, c'est ce que je trouve intéressant comme histoire. Je trouve qu'on peut construire beaucoup de choses autour de ça. Et voilà, c'est ce qui m'intéressait d'essayer de faire.
C'est dur de parler d'un livre sans en raconter l'histoire, hein, finalement.
Oui, c'est pas simple, effectivement.
Sans tout dire. Alors, le quatrième univers était ton premier roman.
Oui.
Comment a-t-il été reçu par ton entourage et les personnes au courant de sa sortie?
Alors, ben, les personnes au courant de sa sortie, il y en avait très peu. Parce que je suis...
Je voulais mettre rare, mais je voulais pas... C'est toi qui le dise.
Oui, non, effectivement, parce que je... Alors, j'avais quelques proches, notamment ma famille, hein, qui savaient que j'écrivais, mais pas forcément de manière... entre guillemets, construite jusqu'à écrire un roman. D'ailleurs, les membres de ma famille étaient les seuls à l'avoir lu à l'époque. Voilà, ils l'avaient bien aimé, ils m'avaient encouragé à continuer, etc. Enfin, ce que peut faire une famille, hein, finalement.
Ah ouais, ah ouais.
Voilà, mais je ne l'avais pas fait lire à d'autres personnes, parce qu'en fait, je suis assez... Bon, il y a deux raisons, en fait. La première, c'est que je suis assez rarement satisfait de ce que je fais moi-même. voilà, je suis assez perfectionniste. Et la deuxième, c'est que je suis, bah, comme je te le disais tout à l'heure, assez pudique en ce qui me concerne. Donc, j'ai du mal à dire que j'écris. C'est quelque chose d'assez intime, finalement, l'écriture. Et j'ai du mal, en règle générale, à dire aux gens, voilà, j'écris des livres. Et donc, voilà, c'était ces raisons-là. Et ce qui fait que, voilà, il y en avait très peu.
D'accord.
Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, c'est mon épouse qui le découvre dans un tiroir et qui me...
Ah oui. D'accord, c'était à ce point-là.
Oui, c'était, oui, vraiment, elle l'a découvert, oui, c'est pas une, une blague, non, elle l'a découvert dans un tiroir, elle m'a dit, mais c'est toi qui as écrit ça, et pourquoi tu m'en as jamais parlé, et faut, voilà, il faut absolument, et du coup, elle l'a lu, et elle l'a bien aimé, elle m'a dit, il faut absolument que tu le publies,
donc là,
et ce que j'ai fait.
D'accord.
J'ai obéi.
Avec le temps, comment l'appréhendes-tu, ce premier roman, si c'était à refaire, tu le réécrirais comment?
Alors, je le réécrirais, bah, c'est facile à dire avec le recul, je le réécrirais différemment, si je devais l'écrire aujourd'hui, on va dire. Ce que je ferais, je pense que je l'écrirais de manière peut-être plus distanciée, déjà vis-à-vis du narrateur, hein, comme on disait tout à l'heure. Et je pense que je l'écrirais aussi d'une manière qui m'est plus familière maintenant, hein, qui, c'est plus celle de des romans qui ont suivi, c'est-à-dire avec plusieurs narrateurs. Parce que j'aime bien ce style de roman un peu choral, entre guillemets, avec plusieurs narrateurs. Comme ça permet de suivre l'histoire sous différents angles. Et avec les relations entre eux, les narrateurs qui se croisent ou pas, mais qui se croisent au fil de l'histoire. Et voilà, ça permet de relier différents fils entre eux. Et surtout, je trouve, d'insister sur un aspect qui est important et qui est déjà abordé dans le quatrième univers, mais sous un angle unique, du coup. Mais qui est finalement l'empathie qu'on peut avoir pour les uns et les autres. Et le fait que, dans une histoire, quelle qu'elle soit, il y a rarement, de manière claire et simple, des gentils et des méchants. Il y a des opinions qui se confrontent, il y a des objectifs qui se confrontent. Et voilà, et ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer le fait que des personnes qui se confrontent ne sont pas forcément séparées entre gentils et méchants. Voilà, ça peut être simplement chacun défend ses intérêts et ses intérêts peuvent être inconciliables et c'est aussi une manière d'essayer de comprendre l'autre, quel qu'il soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout comprendre ou tout accepter, mais voilà, c'est vraiment essayer de faire ce pas vers l'autre. Et je trouve que cette idée d'avoir plusieurs personnages, de raconter la narration selon plusieurs personnages, ça rend ça intéressant, je trouve.
Parce que dans ton premier roman, les gens qu'on croit gentils ne sont pas forcément gentils, puis les gens qu'on croit méchants sont parfois méchants, mais pas forcément. Il n'y a rien de posé, finalement. Enfin, ce qu'on pense être, finalement, ce n'est pas forcément le cas. Oui et non. Enfin, voilà,
Oui, effectivement.
Il n'y a pas de gentil. Le Maxime, il n'est pas trop méchant, ça va.
Il y a des... Après, chacun aura sa définition du mot, mais il y a des gentils et des méchants. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément ceux qu'on croit de prime abord. Et ça m'intéresse pour deux raisons. Parce que la première, c'est la narration. Ça permet de faire des coups de théâtre, c'est intéressant. Mm-hmm. Enfin, potentiellement. Et le deuxième, c'est parce que je pense que la vie est comme ça. Je pense qu'il y a des gens qu'on pense gentils, qui ont une image lisse et qui ne le sont pas forcément tant que ça. Et d'autres, à l'inverse, qu'on peut plus rejeter de prime abord, puisque ils semblent... l'être moins et que finalement il y a des choses à découvrir sur eux qui ne sont pas forcément négatives. Donc je pense que c'est aussi un reflet de la vie.
Ouais. Alors la suite des aventures de Nicolas Dagoun, c'est l'écriture de 4 romans d'une série que tu as appelée Nécropolis.
Effectivement.
Donc tu les as écrits longtemps après avoir écrit le quatrième univers ?
Oui, un petit moment, parce qu'en fait, j'ai... Enfin, encore une fois, le premier tome, donc, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, alors, pour raconter vraiment le contexte, le quatrième univers, je l'ai écrit pendant ma scolarité post-bac. Donc ensuite, j'ai travaillé presque immédiatement. Et du coup, pendant quelques années, j'ai pratiquement plus écrit, en réalité, puisque j'étais vraiment très investi dans le travail, dans ma vie qui se construisait. Donc voilà, j'ai arrêté d'écrire pendant quelques années. Ensuite, j'ai commencé à écrire Nécropolis, le premier tome. Donc ça m'a pris quelques années aussi. Puis la suite a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc les quatre tomes, de fait, ont pris quelques années, hein, peut-être 5 ou 6 ans au total. Mais en général, à partir du tome 2, en une année par tome, je dirais.
Et c'est passé combien d'années entre le quatrième univers et le premier Nécropolis ?
Peut-être 4 ou 5 ans aussi.
Ah oui, ça va quand même.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, mais tu n'avais pas perdu la main.
Non, ouais. Ça fait quelques années quand même.
Alors Nécropolis, on en parle, donc se passe à Rouvroy, ville imaginaire du Nord. Les ch'tis penseront forcément à la commune, enfin, je pensais qu'elle existait, donc à la commune du Pas-de-Calais de Rouvroy.
Je ne savais pas qu'elle existait, mais...
C'est, bon, non, t'as pas regardé.
Ah, pas du tout.
Ah bon, je le fais pour toi. Alors, admettons, tu fais comme si tu le savais.
Bien sûr.
Un des fiefs du Parti communiste est marqué par les mines de charbon et les grèves des mineurs. Oh, je pensais que ça avait un rapport, c'est pour ça. En 1941, contre l'occupant nazi, et des grèves d'après-guerre durement réprimées. Alors, pourquoi le choix de Rouvroy est du Nord ?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Rouvroy est en fait une ville d'une certaine importance, mais qui est située sur une île fictive, elle aussi, située entre la France et l'Angleterre. Et voilà, alors pourquoi ? C'est parce que je voulais prendre une ville complètement imaginaire. Là, pour le coup, je ne voulais pas situer le contexte quelque part. Je voulais que ce soit une île. Donc, une île, il fallait la placer quelque part qui soit dans l'eau. Donc, ça a été le Nord. Là, vraiment, il n'y a pas particulièrement de raison.
D'accord.
Ça aurait tout aussi bien pu être ailleurs.
Et le nom Rouvroy, alors
Alors là, le nom, il est complètement fictif. Non, il n'y a aucun lien avec Rouvroy, donc je découvre.
T'as regardé après si cette ville existait réellement
J'ai dû regarder, oui, à l'époque, si elle existait, pour ne pas reprendre une ville réelle. Donc, ouais. Je n'avais pas trouvé
non.
De référence, qu'elle n'existait pas exactement.
Pas exactement. Bien. Alors, que raconte Nécropolis ? Que se passe-t-il à Rouvroy au point que le premier épisode soit appelé « Les Cavaliers de l'Apocalypse » ?
Alors, en fait, l'histoire, c'est une série de narrateurs, hein, parce qu'il y a, je crois, 6 narrateurs, si je ne dis pas de bêtises. On reprend ce fameux thème des narrateurs multiples, qui sont des habitants de la ville, ou en tout cas qui sont amenés à y travailler, et qui commencent par avoir une vie normale, et se rendent compte que les choses ne se passent pas de manière normale, puisqu'en fait, certaines personnes commencent à décéder et se relèvent en tant que zombies, et attaquent d'autres personnes. Et voilà, donc c'est une histoire de zombies... j'ai envie de dire classique du genre, hein, qui se passe donc dans cette ville fictive. Et donc, le gouvernement décide de mettre l'île en quarantaine pour éviter que l'épidémie ne se propage. Mmh. Et voilà. Et donc, on suit les narrateurs qui essayent de survivre dans cette ville à peu près abandonnée. Alors, plus ou moins, mais c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire. Mais voilà, qui essayent de survivre là-dedans. Alors, chacun font des choix qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ça permet aussi d'imaginer la psychologie de différents types de personnes avec des personnes qui vont éventuellement prendre des risques pour en sauver d'autres ou pour sauver même des inconnus, alors que d'autres, au contraire, vont en profiter pour faire des choses moins recommandables et faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal. Mmh. Voilà, donc...
D'où te vient toute cette inspiration ? Et il en a fallu pour écrire les 4 tomes de Nécropolis.
Alors, en fait, l'inspiration de départ...
Donc, tu avais commencé à écrire avant, précisons... Avant le Covid. Hein.
Oui, aucun lien avec le Covid.
Oui, ça, on va en reparler après parce que c'est important quand même. C'était avant. Ouais.
Non, le Covid, j'ai surveillé de près, mais non, j'ai vu personne se relever après décès. Non, oui, ça n'a rien à voir avec le Covid. Mais non,
alors l'inspiration.
L'inspiration, là, pour le coup, elles étaient alors à la fois multiples et un en particulier. Ces différentes œuvres de zombies, hein, parce qu'il en existe quelques-unes sur ce thème. D'ailleurs, en remerciement, si on peut dire, à l'ouverture du livre, je fais remerciement à Shinji Mikami et Georges Romero, qui sont deux pointures, on va dire, du thème. Georges Romero, qui est un cinéaste américain qui a fait, entre autres, le film Zombie, mais certains autres. Et Shinji Mikami, qui est un concepteur de jeux vidéo japonais, qui est lui l'inventeur notamment de la série Resident Evil, pour ceux qui connaissent, voilà, qui est un jeu qui a marqué mon enfance et auquel je fais un certain nombre de références d'ailleurs dans le livre. Voilà. Donc le point de départ, c'est vraiment ça, c'est un petit peu entre guillemets un hommage à ce jeu, hein, puisqu'il y a le thème dans ce jeu d'une ville attaqué par des zombies, si on peut dire. Donc voilà, le point de départ, vraiment, c'est un hommage et quelques clins d'œil à ce jeu. Et ensuite, l'histoire suit son cours avec les personnages. Et là, pour le coup, l'histoire a moins de... Comment dire ? La fin était moins connue. Alors, j'avais la fin générale dans la tête en avance, mais en fait, je suis surtout... là, en quelque sorte, j'ai suivi les personnages... j'allais dire là où il m'entraînait, c'est une façon de parler un peu particulière, mais voilà, j'ai créé des personnages avec une psychologie, des interactions entre eux, et ensuite je les ai laissés évoluer, si on peut dire, dans cette situation et dans cette ville, et c'est peut-être le roman dont j'avais le fil le moins construit au départ.
D'accord.
Ce qui était intéressant aussi d'ailleurs dans un autre genre.
Ouais. Alors, quand tu as écrit le premier épisode de Necropolis, tu savais déjà qu'il y aurait une suite et trois épisodes précisément ?
Alors non, j'avais pas le nombre en tête. Je savais qu'il y aurait une suite, parce que je savais que je voulais écrire pas mal de choses. J'avais des idées, voilà, qui me venaient, et je voulais qu'il y ait aussi des, parce que bon, les personnages ne sont, pour la plupart, ne se connaissent pas, ne sont pas du tout ensemble au départ. Et voilà, j'avais des liens entre eux, des liens avec aussi des personnages qui ne sont pas des narrateurs, et j'avais des histoires. J'avais un petit peu leur histoire, au moins pour certains, et au moins jusqu'à un certain point, j'avais un petit peu leur histoire en tête, forcément. Et voilà, et leur histoire faisait qu'elle impliquait une histoire relativement longue. Voilà, un point de départ faisait qu'il fallait qu'il leur arrive des aventures et que ces aventures les conduisent quelque part et éventuellement à se rencontrer, avoir des interactions qui les conduiraient un peu plus loin. Et voilà, ça nécessitait une histoire assez longue dès le départ.
La suite des Cavaliers de l'Apocalypse, c'est une terrible épidémie qui a frappé la ville de Rouvroy. Les survivants, le titre du second tome de Necropolis. Je ne dévoile rien. Les survivants tentent de s'organiser pour rester en vie dans une ville placée en quarantaine. Le livre est sorti le 1er décembre 2019. Quelques mois plus tard, le monde subissait une épidémie, celle de la Covid-19. À un moment, tu t'es dit, mince, ce que j'ai écrit était prémonitoire. J'ai écrit un roman d'anticipation, sans le savoir.
Non, parce que finalement, ça reste un thème qui n'est pas inventé, hein, pour le coup.
C'est vraiment l'épidémie, c'est
oui, voilà, non, mais même, je veux dire, c'était vraiment sur le thème des morts vivants, etc. Donc, c'est vraiment un thème qui existe.
Oui, mais les épidémies, comme tu
Il y a eu une épidémie, oui, non, bien sûr, mais je veux dire, c'est je me suis dit, voilà, oui, c'est entre guillemets, si je peux me permettre le terme, c'était rigolo, enfin, dans le sens où c'était cocasse, la coïncidence entre les deux, mais non, j'ai pas...
Rien de prémonitoire.
Non, rien de prémonitoire, d'autant plus que, oui, j'ai pas inventé un genre, hein, pour le coup, je me suis je me suis greffé sur un genre existant. Donc,
oui, puis les épidémies, des histoires de zombies avec des épidémies...
c'est ça,
il y en a un certain nombre.
Ce n'est pas la première.
Donc, roman d'anticipation non plus ?
J'espère pas.
Non. Alors, en 2023, après la période du Covid, tu nous considères aussi comme des survivants ou ce n'est que de la pure science-fiction ?
Non, c'est de la pure science-fiction.
Dans le tome 2 de Necropolis, donc les survivants, on se croirait revenu en pleine pandémie. Je disais que ce soit le confinement, le déconfinement ou le couvre-feu. Alors, le quatrième tome s'intitule « Contre-attaque ». Alors tu écris, je cite, je peux le citer parce qu'il est sur Internet. « La vie des survivants ne tient qu'à un fil et ils vont rapidement découvrir qu'elle a perdu toute valeur aux yeux des puissants. Des enjeux bien supérieurs sont en suspens, au milieu desquels ils vont se retrouver plongés bien malgré eux. » Alors ça rappelle étrangement l'arrivée du vaccin contre le Covid-19, non testé, non approuvé et des enjeux gigantesques pour l'industrie pharmaceutique. « Une fois de plus, notre vie a perdu toute valeur aux yeux des puissants. » C'est ce que tu dis aussi. Ouais, c'est ce que j'ai. Voilà. Donc, cela t'a-t-il inspiré pour l'écriture du quatrième tome ? L'argent contre les gens cher à François Ruffin n'est pas une nouveauté en soi, finalement.
Alors, ça m'a inspiré, oui et non, parce qu'en fait, cette partie de l'histoire était prévue plus ou moins dès le départ. Hein. C'était vraiment dans l'idée que je m'en faisais. Voilà, non, effectivement, c'est une épidémie donc, qui est extrêmement contagieuse, extrêmement dangereuse. Le fait de développer un vaccin, forcément, constitue un enjeu financier colossal.
Ouais, voilà.
Et donc, il y a des personnes, il y a aussi des puissants qui cherchent à arranger les choses pour le bien de tout le monde, parce que ça existe. Mais il y a voilà, des compagnies pharmaceutiques qui sont en concurrence pour essayer de découvrir à la fois le vaccin ou le virus, puisque le vaccin n'a de valeur que s'il n'y a pas d'éradication du virus. Donc, le virus, au départ, était développé... comme une arme. Enfin, c'était ce qui était prévu. Ça, il n'avait pas vocation à s'échapper, mais c'est ce qui était prévu. Donc le vaccin, voilà, le contrôle à la fois du virus et du vaccin est un enjeu majeur.
Dans ton livre, c'est le cas aussi ? Non.
Ah oui, bien sûr. Non, je parle de mon livre.
Ah, tu parles de ton livre ? Non, parce que comme je l'ai... Ouais. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Et comme je ne raconte pas l'histoire, il y a aussi une histoire de vaccin.
Ah, ben, il y a une histoire de recherche du vaccin, en tout cas.
D'accord. Ah, ben, donc c'est vraiment la. Donc ça, c'est une partie que tu as écrite à quelle période par rapport à l'arrivée du vaccin qui était en décembre 2021, par exemple ?
Alors,
ouais, c'est ça.
Peut-être janvier, vaccin...
Décembre 2020, pardon. Je me trompais.
Décembre 2020, ça devait être à peu près... Alors encore une fois, c'est un hasard, hein, parce que l'histoire, je l'avais...
Ah, tu as déjà prévu l'histoire des vaccins, c'était déjà prévu
voire... Oui, oui, c'était complètement...
Ouais. Bah, ils auraient dû plutôt lire des bouquins, non ? Ils auraient appris... Alors, l'argent compte les gens, finalement, oui, même dans ton bouquin, il y en a des questions.
Je pense que c'est une question qui a toujours été d'actualité depuis que l'homme est homme.
Et tu avais envie de la mettre en valeur, mais d'en parler aussi dans ce livre.
Oui, aussi, parce que finalement, c'est exactement ça.
C'est pas qu'une histoire de zombie, quoi.
Non, bien sûr que non. Non, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, à partir du tome 2, notamment, les zombies prennent un peu moins de place. Alors, ils sont toujours là. Hein, c'est toujours ça reste une histoire de zombies. Ouais. C'est un concept autour des zombies. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était c'est vraiment la psychologie des personnages, en fait. Comment réagissent les gens dans ce type de catastrophe. Et voilà, c'est les gens de la base au sommet, si je puis dire. Et voilà, et du coup, c'est ce genre de questionnement, il nous ramène aussi... aux personnes qui vont chercher à en tirer un bénéfice quelconque, que ce soit cambrioler la maison de son voisin parce que sa chaîne IFI est plus belle que la nôtre, ou que ce soit des intérêts financiers s'élevant en milliards d'euros.
Et par rapport au rapport avec les gens, aux réactions des gens pendant ce qu'on a vécu, et toi, ce que tu as écrit, il y a... Je sais pas, comparaison des paraisons, mais ce que tu imaginais comme réaction des gens, t'en as retrouvé certaines dans la vie ?
Alors oui, il faut garder l'échelle et la proportion, puisque là, on est quand même dans une histoire d'apocalypse avec la majorité de la population qui...
Chez nous, c'était pas le cas.
Hein. Non, on n'en était
presque,
pas.
Presque pas.
Hein. On n'en était pas à ce stade-là, d'autant que là...
Défense demandait. Certaines personnes, on se demandait.
Bon. Non, mais d'autant que là, pour le coup, c'est un livre qui est assez noir aussi par bien des aspects, bien plus que le quatrième univers. Et voilà, et j'aborde aussi des sujets tels que... Enfin, c'est vraiment l'effondrement de la société, parce qu'il n'y a plus d'autorité officielle, il n'y a plus d'autorité légale, donc on est à la fois à ceux qui se servent en nourriture sans penser aux autres, évidemment on est dans ce genre de choses, mais on est aussi dans...
Comme ceux qui achetaient 25 kilos de riz au mois de mars.
Voilà, exactement. On retrouve aussi ce genre de questionnement, mais après ça allait aussi pour des cas beaucoup plus graves, des personnes qui ont eu des questions de viol, de ce genre de choses, voilà, tout ce qui peut aller avec une société en effondrement, donc jusqu'aux dernières extrémités, mais effectivement oui, il est aussi question de ce genre de choses, et on voit qu'à petite échelle, malheureusement, on retrouve déjà ce genre de traverse, qui n'est pas forcément rassurant, d'ailleurs, si on imagine un effondrement beaucoup plus avancé.
Bon, sans zombies, par contre.
Sans zombies.
A priori, les zombies, ça n'existe pas.
Jusqu'à aujourd'hui.
Alors, quelle étiquette, toi, collerais-tu à la série Necropolis ? Dans quel rayon la rangerais-tu ? Science-fiction, fantasy, fantastique, roman de zombies
Alors, si je devais la ranger sur mon étagère personnelle, ce serait dans le rayon zombie, parce qu'en tant que fan du genre, j'ai tout un rayon pour ça. Mais non, sinon, c'est peut-être assez... Je sais pas, souvent, ce genre de roman est classé plutôt dans la partie thriller, donc je sais pas si c'est vraiment sa place, hein, mais c'est là qu'on le retrouve souvent dans les librairies. Oui, sinon, peut-être fantastique. Mm-hmm. C'est un peu transgenre, d'une certaine manière, donc on peut le retrouver.
D'accord.
Pas forcément facile à classer.
Ouais, voilà. Alors, les trois premiers épisodes de Necropolis sont sortis le 25 novembre et le 1er décembre 2019 et le 23 mars 2020. Le dernier épisode est sorti le 10 février 2022. Alors, pourquoi avoir attendu autant la pandémie ne t'a pas été profitable pour écrire ?
Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que les autres ont été enchaînés. Ils ont été mis en ligne beaucoup plus rapidement, tout simplement, parce qu'en fait, je n'ai plus les dates en tête, mais quand je les ai mis en ligne, en fait, j'avais pratiquement fini d'écrire le tome 3, quand j'ai mis le premier en ligne, je veux dire. Donc voilà, j'ai pu me permettre d'enchaîner, puisque tout simplement, ils étaient déjà écrits. Le tome 4, du coup, il a fallu l'écrire complètement. Donc voilà, ce temps différé, c'est simplement le temps de la rédaction.
D'accord.
Pour les autres, j'ai triché, ils étaient déjà écrits.
Donc, ce qui s'est passé dans la vie, t'as forcément influencé pour le quatrième ? Enfin, ou un peu ?
Honnêtement, je pense pas tant que ça, puisque les fils, on va dire, de l'histoire étaient déjà présents dans ma tête.
D'accord.
Donc, non, je pense pas particulièrement, d'autant que l'histoire était... Enfin, sans dévoiler ce qu'il en est de l'histoire, mais l'histoire était déjà sur les rails, si on peut dire, et là, c'est la conclusion des différentes trames. Donc, après, inévitablement, il y a des influences qui peuvent être multiples et qui viennent de tous les côtés, mais la période a été particulière, donc elle m'a sans doute influencé, mais c'est pas évident comme ça quand j'y réfléchis.
Ouais. Enfin bon, c'est une sorte de zombie, une sorte de pandémie, on est en plein dedans.
Donc, on reste dans le thème.
On reste dans le thème. Alors, est-ce qu'il y aura une suite au quatrième univers et à Nécropolis ?
Alors, à Nécropolis, a priori, non. En tout cas, pas en tant que tel. J'ai toujours en tête éventuellement d'écrire un... Bon, après, répondre complètement à cette question impliquerait d'en dire beaucoup sur la fin, ce qui pourrait être embêtant. Mais c'est a priori, non. Ça pourrait reprendre un petit peu l'univers pour aller plus loin éventuellement. Pourquoi pas recroiser certains personnages, mais ce ne serait pas nécessairement une suite en tant que tel. Le quatrième univers, alors là, la réponse est compliquée aussi. Une suite pourrait tout à fait être envisageable. C'est le roman le laisserait... Il y aurait de la place pour écrire une suite, ça serait complètement envisageable. Simplement, c'est un livre que j'ai écrit il y a presque 15 ans. Et du coup, revenir dessus, c'est un peu compliqué, d'autant que... beaucoup de choses ont évolué depuis sur ce que j'aime écrire, ce que je compte écrire, sur même la manière que j'ai d'écrire. Donc, ce ne serait pas quelque chose de simple pour moi d'écrire la suite du quatrième univers, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, malgré tout, je pense que c'est quelque chose que je voudrais faire un jour.
Ouais.
Donc, je ne le ferai pas là, dans les quelques années qui viennent, c'est certain. mais je pense que c'est quelque chose que je voudrais faire parce que pour moi...
Logiquement, il y a une suite, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, pour moi, il a un peu un goût de roman inachevé, quelque part, parce qu'effectivement, il appelle une suite.
Il appelle une suite, ouais.
Et voilà, j'aimerais l'écrire un jour, oui.
Alors, celles et ceux qui veulent te suivre et acheter tes romans n'ont pas le choix, hein, puisque c'est uniquement sur le site d'Amazon, qui est parfois un gros mot, que l'on peut se les procurer. Peux-tu nous expliquer le mode de distribution de tes livres, qui est un peu particulier, puisqu'on ne te trouve ni en librairie, ni en bibliothèque ?
Oui, alors effectivement, parce que mes livres, du coup, quand j'ai décidé de les publier, En fait, je n'ai pas voulu les envoyer à des éditeurs parce que, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de confiance en moi et d'insatisfaction sur ce que je fais. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils ne seraient pas acceptés par des éditeurs, tout simplement. Et du coup, j'ai choisi de les mettre sur Amazon parce que, pour le coup, c'est quoi qu'on pense du site. Par ailleurs, il offre des solutions intéressantes pour les auteurs parce que ça permet de l'autopublication déjà sans débourser un centime, ce qui est confortable aussi, parce que c'est à la demande. En fait, chaque personne, quand il veut acquérir le livre, le livre est construit, entre guillemets, à ce moment-là et envoyé. Donc,
il est imprimé à ce moment-là.
Ouais. Il est imprimé à ce moment-là, voilà, exactement.
Bon, pas forcément en France, j'ai vu.
Oui. Voilà. Mais en Europe.
Voilà, c'est en Italie, donc ça va encore.
Mais voilà, non, mais c'est vrai que ça offre cet avantage-là. Et par contre, les retours qui ont été plutôt positifs sur les livres, hein, parce qu'il y a eu plus de ventes que je ne pensais au départ, beaucoup plus, et des retours beaucoup plus positifs que je le pensais aussi, m'ont donné confiance, on va dire, et m'ont décidé à envoyer donc mon sixième ouvrage, qui n'est pas encore publié nulle part, à des éditeurs cette fois. Donc j'ai fait l'envoi il y a quelques mois, et bon, j'attends la réponse, hein, parce que ça prend entre 6 et 8 mois, voire un an, selon les éditeurs, hein, c'est ce qui est indiqué sur leur site. Donc voilà, c'est ma première tentative, je verrai ce qu'il en est. Pour le moment, je n'ai pas de réponse ni positive ni négative, donc
d'accord.
Je suis en attente.
As-tu une idée du nombre des livres que tu as déjà vendus ?
Alors oui, puisque j'ai accès au rapport que fournit Amazon, hein, puisqu'il nous donne accès à tout ça. Donc c'est environ 4000 ouvrages, tout confondu, donc sur les 4 tomes de Nécropolis et le quatrième univers. Je suis à peu près à 4000 livres.
Donc imprimés, mais pas forcément.
Alors oui, imprimés, mais pas forcément, parce qu'effectivement, ça dépend du format. Il est disponible en plusieurs formats. En format papier, donc là, c'est le format le plus classique. En format liseuse, on va dire, appelé Kindle sur Amazon, donc dématérialisé. Et alors, il est aussi accessible pour les abonnés Amazon en lecture libre et gratuite. Voilà, et donc ça permet pour eux de ne rien débourser.
D'accord. As-tu des retours, notamment la série Nécropolis, alors ? Comment étaient les retours ?
Alors, il y a plusieurs types de retours. Les retours, comme je disais, sont globalement positifs, surtout par rapport à ce que je m'attendais, parce qu'encore une fois, j'ai, tendance à ne pas avoir assez confiance en moi. et voilà, non, ils sont plutôt positifs. Après, forcément, il y a aussi des personnes qui ne l'ont pas apprécié. Hein, et donc voilà, il y a un petit peu de tout. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que la grosse partie des commentaires sont constructifs et ça aide beaucoup à avancer. Je trouve que c'est intéressant aussi de publier les romans, ne serait-ce que pour ça, puisque ça permet vraiment d'avoir des retours. Donc, positif, c'est bien. Parfois négatif, c'est presque mieux, puisque ça permet aussi de mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, sur des défauts. Alors certains défauts peuvent être complètement subjectifs, et voilà, mais d'autres peuvent l'être moins, et ça permet vraiment de progresser, je trouve.
Mmh. À côté promo, tu n'as ni site internet, ni une présence sur les réseaux sociaux. C'est un choix que d'écrire des livres sans forcément le proclamer ?
C'est un choix, oui, parce qu'en fait, au départ, j'écris pour le plaisir d'écrire. J'ai publié, j'allais dire malgré moi, ce qui serait un peu exagéré, mais
quand même.
J'ai publié, non, au départ, sans conviction, on va dire, pas malgré moi, mais sans conviction. Et voilà, non, et là, je prends conscience qu'effectivement, non, il faut que, c'est d'où l'idée de l'envoyer à un éditeur, mais je prends conscience qu'il faut que je communique. Ouais. Donc, j'ai placé dans Nécropolis, dans le quatrième, pas encore dans le quatrième univers, d'ailleurs, il faut que je le fasse, un petit... un petit paragraphe remerciement,
bien sûr.
Voilà, et avec une adresse mail pour me contacter. Voilà, donc j'ai eu plusieurs retours de lecteurs par rapport à ça et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc la plupart m'ont dit qu'il fallait que j'ai une page Facebook ou autre support pour me suivre parce que je voulais savoir si d'autres romans étaient prévus et et voilà, ils n'ont pas moyen de le savoir, donc voilà. Donc c'est une demande qui revient, effectivement.
Voilà. Donc pour la suite, es-tu forcément à la recherche d'un autre mode de fonctionnement? Enfin oui, forcément d'un auditeur, mais d'un éditeur. Là, c'est l'objectif.
Oui, bah effectivement, ce serait l'idéal, oui, pour être déjà pour être distribué plus largement. Et voilà, parce que c'est un peu l'objectif quand on est écrivain, finalement, c'est d'être édité.
D'accord. C'est nouveau, ça, non? C'est bien, c'est bien. Tu es sur l'écriture d'un nouveau roman. Que peux-tu nous en dire plus sans dévoiler trop l'histoire, sans rien dévoiler, finalement?
Alors, en dire plus sans rien dévoiler, ça va être compliqué.
Sans trop dévoiler, alors.
Je suis sur l'écriture, même en réalité, du tome 2 de ce roman, parce que le premier roman est déjà écrit. Il n'est pas publié, mais il est écrit.
Ah, d'accord.
Donc, il s'appelle, pour le moment, en tout cas, La Fédération des Onze, donc qui est un roman de science-fiction qui prend place dans un univers futuriste. Hein, les humains ont colonisé plusieurs planètes. Ils vivent au sein d'une fédération, donc, qui regroupe 11 planètes, d'où le nom. Et ils côtoient des races extraterrestres, donc qui sont des races, pour la plupart, alliées, mais pas toutes. Et voilà, et ce roman, c'est encore une fois écrit de manière... chorale, entre guillemets, avec plusieurs personnages, plusieurs points de vue. Et sans trop en dévoiler encore une fois, mais en disant un petit peu l'histoire de base, c'est que cette fédération est divisée pour plusieurs raisons entre les planètes dites centrales, qui sont en règle générale plus riches, plus avancées, et les planètes de la bordure, qui sont plus à l'écart et considérées comme plus arriérées par les centraux, ou voilà, alors qu'eux-mêmes considèrent les centraux comme... comment dire ?
C'est un peu Marseille contre Paris, ça, non ?
C'est l'idée. C'est cette idée qui revient, effectivement, qu'on peut transposer dans notre monde contemporain, hein, du centre et de la périphérie.
Exactement.
Et voilà, et c'était l'occasion d'aborder ces questions-là et encore une fois, d'essayer de se placer des deux points de vue et de ne pas diaboliser ni l'un ni l'autre, mais d'essayer de comprendre, de faire comprendre, sachant qu'encore une fois, hein, je le vois sous un angle, entre guillemets, catastrophiste, parce que ce qui va se passer dans ce roman, et d'ailleurs c'est le nom du premier tome, c'est Guerre civile. Donc ce qui va se passer, c'est une guerre civile, puisque j'espère que nous n'en arriverons pas là, mais c'est ce qui arrive dedans. Et voilà, c'est une guerre civile, donc pour faire simple, entre le centre et la périphérie, sachant qu'une des aliens hostiles vont en profiter pour essayer d'envahir tout le monde pendant ce temps. Et voilà, et donc c'est cette lutte à la fois contre l'extérieur et à la fois cette guerre civile qui va faire jouer des enjeux politiques, économiques et émotionnel et personnel pour les personnages qui sont plongés au milieu de tout ça.
Donc, on parle de sujets qui t'inspirent. Bon, à part la science-fiction, le fantasy et les zombies, dans quel genre pourrais-tu ou aimerais-tu te lancer si on parlait pas de science-fiction?
Alors, plusieurs thèmes, finalement. C'est vrai que j'ai pas forcément de... Bon, c'est des thèmes qui sont assez proches, mais qui ne sont pas non plus exactement les mêmes, parce que c'est vrai que j'aime bien goûter à différentes choses. Il y a un thème clairement qui me trotte dans la tête, c'est la fantasy, enfin, ce que les anglo-saxons appellent la fantasy, c'est l'univers typiquement, comme je citais tout à l'heure, le Seigneur des Anneaux, voilà, ce genre de choses médiévales fantastiques, on peut l'appeler un peu comme on veut, et ça j'ai vraiment tout un, j'ai noirci quelques feuilles sur ça, j'ai vraiment tout un univers en tête, des personnages en tête, des pays en tête, j'ai vraiment énormément de choses sur ce sujet-là. Pour le coup, ça, c'est vraiment un livre que je prévois d'écrire plus tard, hein. Enfin, même plusieurs livres, parce que c'est vraiment tout un univers là, dont il est question. Mais là, pour le coup, j'attends parce que c'est vraiment... dans mon esprit, ça serait vraiment le livre de ma vie, quelque part. Donc, je veux vraiment être sûr d'atteindre la pleine maturité dans l'écriture pour l'écrire tel que je voudrais vraiment l'écrire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire...
C'est quoi ta maturité ?
C'est-à-dire...
Pas tout de suite, alors.
Ouais, peut-être qu'on s'en rapproche. Non, c'est-à-dire... c'est en écrivant qu'on devient écrivain, quelque part. Et je trouve que plus j'écris, plus j'ai tendance à être satisfait de ce que j'écris. Donc voilà, dès que je considérerai que je suis...
Prêt,
là où je veux aller, je me lancerai.
As-tu encore le temps de lire les livres des autres ?
Alors oui, je lis toujours beaucoup. J'arrive à trouver le temps. Alors, l'avantage, c'est que je suis un très petit dormeur, ce qui me permet de lire pendant mes nuits d'un samedi. Mais encore une fois, je lis assez peu de romans. Donc voilà, je lis surtout des livres d'histoire, économie, politique, ce genre de choses. Des romans aussi quand même parfois, hein, mais c'est pas ce que je lis principalement. Donc oui, je trouve toujours le temps de lire.
Et là, tu as des écrivains de chevet, des auteurs de chevet, la nuit, les nuits.
Alors oui, y en a qui reviennent beaucoup. Reviennent. Hein. J'ai des auteurs que j'apprécie, oui, particulièrement.
Ouais. Mais tu veux pas en parler,
Oh si, il n'y a pas de...
Vas-y.
Y en a plusieurs dans des styles complètement différents. Ouais. Je lis les auteurs, on va dire, dont je sais par avance que je vais acheter leur livre, quel qu'en soit le sujet.
Voilà, par exemple.
Il y a Jean Lopez, qui est un historien qui est assez prolifique d'ailleurs et que j'aime beaucoup suivre. Il y a, alors dans un autre registre, Thomas Piketty, dont j'acquiers aussi tous les ouvrages, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Voilà, après il y en a d'autres Emmanuel Todd également, sociologue que je suis assidûment. Et voilà, sinon après il y en a d'autres, je vais pas forcément faire un inventaire exhaustif, mais
non bon.
Mais il y en a un certain nombre. Voilà.
On sait ce que tu lis, on peut savoir ce qu'on peut retrouver également dans tes livres. Il y a des fois la philosophie de tes livres est pas loin des auteurs que tu viens de citer là. Non,
ça peut se recouper. Après,
moi j'ai trouvé, hein. Alors, est-ce que tu penses que les scénarios de tes livres feraient une bonne série ou un bon sujet de film ? T'aurais envie de dire oui.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein? J'aurais envie de dire oui, puisque moi, personnellement, c'est des histoires... Enfin, c'est bête ce que je vais dire, on est proche de la palissade, mais moi, c'est des histoires qui me plaisent, puisque je les ai écrites. Donc j'aurais tendance à vouloir les voir en film, en série. Après, est-ce que ça ferait des bons films ou des bonnes séries ? Je pense que je suis la dernière personne à pouvoir en juger. Il faudrait demander au lecteur.
Ouais.
Mais pour moi, oui.
Tu t'imagines des... Donc, si on te proposait, tiens, justement, à quel réalisateur et puis quel comédien aurait ta préférence pour raconter tes histoires au cinéma ou à la télévision ?
Alors ça, c'est une très bonne question, mais j'aurais beaucoup de mal à y répondre. j'ai pas forcément c'est pas une question forcément à laquelle j'ai réfléchi et j'ai pas forcément d'exemple en tête, donc je pourrais pas vraiment répondre, mais... Non, comme ça, non, j'ai pas, j'ai pas forcément de réponse évidente qui me vienne.
Tu les verrais... Tu t'imagines
Alors je les imagine. J'imagine bien
filmer.
Oui, complètement.
T'as des images de ce que tu racontes.
Oui, complètement. C'est très visuel, donc je les verrais vraiment. Enfin, je les ai en tête très visuellement. Les personnages y compris, hein, mais du coup, j'ai du mal à leur mettre une tête connue, entre guillemets.
Donc il resterait la BD, par contre, alors.
Pourquoi pas
en BD.
Pourquoi pas ?
Ouais, mais là, c'est un autre domaine. Ouais.
Effectivement, oui. Ouais. Alors là, pour le coup, je n'ai aucun talent de dessinateur, donc j'aurais besoin d'aide pour les transposer en BD, ça c'est sûr.
Ah, que penses-tu des livres audio ? Ils feraient un bon support pour tes livres et pas uniquement pour les personnes malvoyantes. Non, ouais.
Alors oui, complètement.
Oui, alors, qu'est-ce que t'en penses des livres audio, toi ?
Alors moi, je les j'utilise pas du tout, à vrai dire. Hein, j'aime
testé,
lire vraiment... visuellement. Donc voilà, non, j'ai testé un petit peu, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment accroché j'aime vraiment l'aspect visuel. J'ai du mal à me concentrer juste avec l'audition. Mais bon, ça, c'est très personnel. Hein. Mm-hmm. Du coup, oui, je pense que après tout livre, pour moi, ferait un bon livre audio, hein, je suppose.
Ça dépend comment. Qui le raconte et de la façon dont on s'est raconté. Donc, toi, ça te dirait, toi, de raconter tes histoires sur Radio B, un feuilleton radiophonique, t'as déjà pensé ?
Alors, j'y ai pensé pas du tout. après, pourquoi pas ?
tu t'imagines raconter, parce que là tu racontes des histoires, tu les écris, mais les raconter avec oui, les raconter.
Sans, pourquoi pas, après il faudrait que je m'entraîne parce que ce serait pour le coup un format complètement nouveau pour moi.
Mais t'as jamais pensé à raconter tes histoires autres qu'en les écrivant?
Non, sincèrement non, pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment pour moi l'écriture, c'est quelque chose qui me vient très naturellement. Les raconter, je pense que j'aurais sûrement plus de mal à l'oral, mais je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert, hein, mais ce serait moins naturel a priori.
Eh bien, merci Clément Robinet, alias Nicolas Dagoun, d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à toi.
Rappelons que tu as sorti 5 romans déjà. Donc le 4e univers et 4 épisodes de Nécropolis, on peut se les procurer où?
Alors sur Amazon uniquement, en tout cas pour le moment, donc sur le site classique amazon.fr ou .com. Voilà, donc soit en tapant Nicolas Dagoun, soit en tapant le nom des romans.
Aura-t-on une chance de te voir un jour en séance dédicace dans une librairie ou une médiathèque de Bourg-en-Bresse et de ses environs?
Alors oui, je travaille sur moi et je pense que ça, ça finira par devenir envisageable.
Bon, t'as repéré les librairies, t'as repéré un peu...
Je les connais, les pratique.
Bien. Eh bien Clément, je devrais dire Nicolas. Hein. Bonne continuation, bonne écriture, un bonjour... peut-être un bonjour à celle sans qui tu ne serais pas là, parce que c'est elle qui a ouvert le tiroir un jour.
Bonjour et un merci.
Voilà, à Charlène.
C'est
et
ça.
Puis une petite pensée pour la pétaliste, même si elle figure sur le premier livre. Oui, c'est Alice. Ouais, en plus, c'est la copine de Maxime.
Exactement.
Hein, donc, est-ce un hasard si on retrouve Alice quelques années plus tard
C'est un prénom que j'aimais bien, donc voilà, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé quelques années plus tard, dans un autre contexte.
Voilà, on leur fait des gros bisous. Et puis, à très bientôt sur Radio B pour le prochain roman.
Exactement, je serai là.
À bientôt.
À bientôt.